pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'Écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, l'Écho des Garrigues à Saint-Girons. Et bien évidemment, Radio Primitive, l'Écho des Garrigues annonce, c'est à Montpellier et la locale à Saint-Girons. Radio Primitive sur un sous cette émission réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Eh bien, ce soir, notre émission, elle sera en deux temps. Le premier temps, qui sera le plus long, concerne le débat public qui a été boycotté à Lille concernant l'enfouissement des déchets nucléaires. Et ensuite, on parlera du procès de ce matin sur Reims de 5 gilets jaunes rémois. Ok, ben on y va peut-être.
Ouais, bonsoir Luc. Donc Luc, tu nous appelles de Lille.
Oui, bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Donc tu as participé mardi 28 dernier à ce fameux débat organisé par la Commission nationale du débat public qui concernait les déchets et la gestion des déchets nucléaires et des déchets radioactifs. Il se trouve que il y avait trois collectifs qui étaient présents. Il y avait Lille Radier, tu nous les présenteras. Il y a l'ANV COP21 et il y a un autre groupe qui s'appelle Extinction Rebellion.
Rebellion. Ouais.
Voilà. Et donc, en fait, vous avez participé, vous avez chahuté surtout le débat et puis tu vas nous raconter ce qui s'est passé au bout d'une heure et demie, les conclusions.
Bonne heure,
ouais. Voilà. Bon, déjà, je précise que tu es pas bon. Pour nous, tu es aussi quelqu'un qui fait partie du mouvement antinucléaire historiquement, hein, puisque on s'est connu sur des luttes antinucléaires à chaud, notamment dans les Ardennes, et que c'est pas tout à fait un hasard si tu es là sur le plateau aujourd'hui avec nous, quoi. Voilà.
Tout à fait. Disons qu'effectivement, il y a une quarantaine d'années maintenant que je suis au sens suivre les débats et les différentes actions sur l'énergie nucléaire. Alors bien entendu, je ne cache pas que dès l'époque de Gravelines, puisque c'est dans les années 80, la position était très claire et très franche, hein, sur l'opposition à l'énergie nucléaire en soi. Donc ça, ce préalable étant dit, je précise tout de suite comment je suis intervenu et comment j'ai décidé de participer à cette réunion du 28 mai. À deux titres. Alors, et peut-être aussi un troisième par derrière. Premièrement, j'insiste sur le fait que c'est une commission nationale du débat public donc qui appelait donc des citoyens lambda à venir écouter, discuter, poser des questions à quelques experts qui auraient pu y répondre. Donc le débat, c'était bien entre citoyens et non pas un débat entre des citoyens et des experts. C'était bien un débat entre citoyens avec la possibilité que quelques experts présents puissent répondre à des questions. Donc ça, c'est important de le resituer, puisque c'est un débat qui est fait par la Commission nationale des débats publics, qui a été en charge en février 2018 par Nicolas Hulot à l'époque, donc de se positionner sur la question des déchets. Donc le débat était vraiment centré sur l'existence, la quantité, l'avenir, les possibilités de déchets, en dehors des décisions qui sont bien sûr déjà prises ou qui sont en passe d'évoluer sur la situation de CIGEO abus. Hein. On est bien sur l'ensemble des déchets. Mais c'est important de dire qu'il ne s'agissait pas de statuer sur l'avenir du nucléaire. C'était vraiment la question sur les déchets. Et ça, je fais ce préalable, puisque justement, c'est comme ça que je trouvais intéressant de pouvoir aborder et d'aller jusqu'au bout de cette discussion-là. Donc, le débat, effectivement, alors les conditions de cette réunion étaient tout à fait sereines, puisque l'entrée, il n'y avait aucun filtrage, il y avait simplement une vérification de base, mais vraiment très 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 légère, du plan Vigipirate, comme d'habitude, mais ça, ça n'est pas inhérent à la salle, c'est pas inhérent aux organisateurs. Et la salle était, alors déjà je dis que les depuis, dans les différents communiqués, on peut avoir accès, peut-être ce sera intéressant de le redonner, les deux parties de cette réunion débat public sont sur, donc enregistrées en vidéo, ils sont publiés par la Commission nationale débat public sur Dailymotion. Donc on peut voir effectivement l'intégralité de cette grande heure, une petite heure et demie de discussion qui a été effectivement fortement chahutée. Comme tu le disais. Donc ça c'est important. Je pensais pas qu'ils allaient les mettre très vite, mais en fait ils ont mis très très vite les débats enregistrés. Et c'est pas dans un enregistrement pirate, c'est vraiment le débat enregistré. Donc voilà le contexte, réunion prévue normalement de 2h, 2h30 à peu près, donc 19h, 21h30, peut-être que c'était annoncé, avec une centaine, entre 100 et 150, et un grand maximum 150 personnes, il y a plutôt une centaine de personnes, avec quelques personnes debout à droite à gauche, en arc de cercle, avec au milieu la présidente et les animatrices qui déambulaient pour passer le micro à qui voulait prendre le micro. Voilà pour le contexte. Alors, par contre, qu'il y a tout de suite, hein, donc ça a été effectivement la volonté qui était annoncée par les trois associations qui avaient fait un point avant pour essayer de que le débat ne puisse pas avoir lieu, puisque c'est clairement dit, hein, que pas de débat possible dans ces conditions.
Alors, pas de débat possible, il faut préciser, sans sortie du nucléaire.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils ont tout de suite. C'est ce qui est dit par les trois. Alors, il y avait bien sûr eu des prises de parole complètement intempestives hein, par les uns les autres, qui était le but du jeu, c'était à chaque fois d'intervenir systématiquement, donc pour empêcher effectivement la parole de ce qu'on appelle les pros nucléaires, ou en tout cas de ceux qui voulaient se présenter comme ça, même s'il n'y en avait pas beaucoup, on les avait pas repérés au départ. Il y avait quelques représentants de la commission, plus trois représentants des ministères qui étaient à la tribune, enfin une petite tribune, un manche debout. Par contre, qu'on a découvert au cours du débat, et c'est justement un des points intéressants qui fait que de toute façon c'est comme ça que ça a aussi pu capoter. C'est pas simplement la simple pression des militants qui étaient là, c'est aussi l'organisation qui pour moi est un échec complet, et ça repose bien la question de comment on peut en débattre. C'est qu'au milieu donc des citoyens, il y avait des citoyens particuliers qui étaient des représentants d'Orano, d'EDF, du CEA, et qui se présentaient comme des citoyens.
Bah oui.
Voilà. Donc c'est ça aussi qui a fait un petit peu déborder un petit peu là, même si je pense qu'il ne l'aurait pas dit, ça aurait continué, qui a fait vraiment, vraiment applaudir et réagir. Alors là, la majorité, la grande majorité des présents, c'est que le représentant d'Orano, même si il peut être citoyen quand il y a un concours de belote quelque part, il se présentait comme étant citoyen à égalité avec les participants qui se présentaient de leur simple prénom. Voilà, donc là c'est un des points pour moi qui était intéressant à voir. Je ne pensais pas qu'ils allaient faire comme ça, et on a appris après, et j'y reviendrai après, on a appris à la fin de la réunion que ça a été un débat au sein de la commission sur la façon de se présenter. Donc le fait de mélanger de façon anonyme au départ des citoyens et de donner la place, on les reconnaît tout de suite, hein, évidemment au niveau de l'apparence, ça se voit très très vite. Des citoyens professionnels du débat public qui sont les représentants des autorités ou des personnes qui ont un intérêt à agir, bien entendu, qui ne sont donc pas des citoyens lambda, qui sont des personnes qui ont un intérêt, des professionnels, des experts, on peut les appeler. Et c'est aussi la configuration du débat qui était me le barrait dès le départ, et donc qui a fait que ça ne fait qu'amplifier les différentes interventions intempestives et forcer la présidente à reconnaître. Alors, deux choses. Un, que le débat tel qu'il était préparé n'est pas possible. Alors, bien sûr, avec des sous-entendus, une minorité bloque le débat. Quand elle a dit ça, on a bien senti effectivement qu'il n'y avait pas de majorité qui s'opposait à la fermeture du débat. Donc, de fait, la majorité a accepté la fermeture de cette séance, hein, pas du débat, mais de cette séance, dans les conditions telles qu'elles étaient elles étaient effectivement proposées. Voilà. Donc ça, c'était quand même une chose intéressante. Et je pense que les militants qui avaient préparé, alors ils ont annoncé hein, leur volonté vraiment d'empêcher le débat, quitte à dire on a fait un acte de sabotage, hein, le mot a été prononcé. Et effectivement, c'est un acte de sabotage organisé tout à fait non violent, enfin, par une participation avec des explications, donc il n'y avait pas de moyens coercitifs. Bon. Donc c'était le fait d'empêcher ce débat, mais avec un préalable et une raison qui a été, et un motif qui a été noté, et on l'a bien entendu, je pense que j'ai pas le temps de revisionner, mais je pense que c'était bien dit et ce sera dans le compte-rendu. Apparemment, il ne peut pas y avoir de débat sur les déchets tant qu'il n'y a pas de décision de sortir du nucléaire. C'est ça qui est important à faire entendre et à faire acter par la présidente de la séance, qui est la présidente de la commission du grand débat public, et de dire il ne peut pas y avoir de débat sur les déchets tant qu'il n'y a pas de position sur la sortie du nucléaire.
Oui, pourtant, juste une incise, c'est que le plus grand chantier de France concernant le stockage des déchets nucléaires en profondeur, c'est un chantier qui va coûter plusieurs dizaines de milliards. Il est prévu en Meuse et celui-là est totalement entériné puisque le nouveau ministre l'avait déclaré. Hein, je crois que c'est De Rugy, ministre qui a remplacé le précédent, là, qui a démissionné. Comment ?
Hulot.
Pardon ?
Hulot,
ouais, Hulot, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, le village de Bure et tous les environs sont en situation d'occupation. Et on a aussi affaire à des travaux colossaux qui sont entrepris sur les voies ferrées pour bel et bien acheminer les déchets nucléaires. Donc voilà, on est devant le fait accompli dans un territoire qui est celui de la Meuse. Et puis là, on organise un débat, donc la Commission nationale du débat public. Et par ailleurs, ce que je voulais signaler, c'est que le mouvement antinucléaire, cette fois, les habitants du territoire de Meuse ont organisé tout un cycle de conférences dans le Grand Est qui a rassemblé, je crois, quelque chose comme 50 à 60 conférences de Nancy à Commercy, en passant par Bar-le-Duc, évidemment, Reims, etc. Et ça a été extrêmement suivi. Là, vraiment, il y a matière. Enfin, le public a eu l'occasion de s'informer vraiment en long, en large et en travers de la question. Mais revenons à ton...
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une information qui n'a pas été ni d'un côté ni de l'autre évoquée. Hein, le débat, enfin les débats actuels qui existent dans la tournée que fait effectivement ce mouvement. Ceci dit, ce qui a été abordé et a été reconnu par la présidente, c'était le fait que ce débat, ce troisième débat, mais qui est le premier de la Commission nationale des débats publics, intervient sur la question de CIGEO, notamment, après deux débats précédents, qui n'ont pas été jusqu'au bout. C'était présenté comme ça. Les débats précédents, de 2005 à 2013, ont eu lieu. Alors, bien entendu, la réponse des militants, c'était de dire, oui, mais bon, à quoi ça sert de faire un troisième débat si la position était déjà évidente. Mais c'était, on se place aussi après ces deux premiers débats, tout en ne faisant pas la synthèse de ce qui s'est dit. Un manquement aussi qui était apparu, c'est, on sait qu'il y a eu des débats, on sait qu'on n'a pas été jusqu'au bout, mais on ne sait pas en quoi on n'a pas été jusqu'au bout. Donc là, c'est un premier reproche que moi j'ai fait tout de suite, que j'ai inscrit, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je l'ai fait après, aux représentants du CEA et de l'EDF. C'est de dire que oui, bah, c'est bien de dire qu'il y a eu des choses avant, qu'on en a parlé, qu'on peut évoluer, donc on peut revenir sur un certain nombre de choses. C'est intéressant d'entendre, on peut revenir sur des choses. Par rapport à la question, c'est est-ce que du coup, CIGEO est complètement entériné? En tout cas, dans le dire de ce qu'on a entendu, non. CIGEO, c'est pas fait pour l'instant. Donc c'est comme ça que ça a quand même été dit. On ne fait pas un débat pour savoir comment on va gérer CIGEO, c'est on fait un débat en amont. Donc même si en ce moment, sur CIGEO, enfin, sur Bure, il se passe des choses, c'est pas entériné. Aujourd'hui, il n'y a pas toutes les décisions qui ont été prises pour continuer. Hein. C'est pas comme ça que c'est présenté. Alors, ça peut être de l'enfumage pour certains, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai senti quand même qu'il y avait cette possibilité de proposer un coin dans la porte. Dire, ok, donc si on suit la réflexion, comment faire pour que cette décision qui va générer effectivement des flux financiers, migratoires, tout ce qu'on veut, sur une région particulière, la Meuse, pour une durée très importante. Est-ce que c'est décidé ou pas? Si ce n'est pas décidé, comment on fait pour qu'il y ait une décision assumée, puisqu'il y a cette volonté de faire un plus grand débat? C'est ça qui m'intéressait d'aller voir. Donc, je reviens très rapidement sur les conditions. Donc, il y a eu quelques échanges, quelques prises de position habituelles. Et là, la présidente, effectivement, aurait dû intervenir plus rapidement. Ça fait un petit peu envenimer le débat. Des interventions sur la position de l'Allemagne, par exemple, sur le fait d'arrêter le nucléaire et de remettre des centrales au charbon, sur le CO2, etc. C'est hors sujet. C'était pas ça la question. La question, on rentrait sur les déchets eux-mêmes. Alors, il y a eu des témoignages intéressants sur, par exemple, le transport. Un Lillois qui a, lui, est intervenu, donc je pense que son intervention est reprise, en disant qu'il avait vécu, effectivement, un échauffement quand il était à son balcon, parce qu'il y avait un train de marchandises bizarre qui stationnait dans l'île. Et on a appris, effectivement, après, que c'était des wagons qui étaient, bien sûr, dans le cadre du transit pour la Hague, en venant des pays nordiques. Et il y avait, effectivement, eu un incident sur l'île avec un réchauffement anormal de quelques-uns de ces containers Castor pour les biens.
Lors d'un transit de Castor vers l'Allemagne, en fait. Ouais.
Alors, du coup, il y avait effectivement une révélation. Disons, donc comment on fait dans ces cas-là, puisque aucune des régions transitaires ne serait à l'abri effectivement d'un incident. Mais là, on parle bien des déchets. On parle bien justement de ce problème d'approvisionnement d'un centre unique en France pour pouvoir traiter ce genre de déchets, et puis tous les transferts qu'il peut y avoir de la France vers des pays européens vers la France et vice versa, puisqu'on sait bien que la décision aussi, elle n'est pas simplement franco-française, elle est aussi inhérente à une position sur les déchets européens. Alors, il y a eu quelques témoignages quand même qui ont pu avoir lieu, donc avec micro, donc il y avait une certaine quand même convivialité pour passer le micro et tout le monde respecter quand il y avait des décisions, bien sûr, sur le sujet. C'est intéressant. Alors, bien sûr, ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, c'était très clairement Orano, Landra qui essayait d'intervenir un petit peu, il s'est fait chahuter, alors, par exemple, de Landra. Il a pu quand même justifier, c'est intéressant quand même, à la demande notamment de Greenpeace, qui représentant de Greenpeace fait partie de la commission de pression qui siège. Il intervenait comme un des membres du groupe, je dirais, des associations qui participaient donc à ce débat, donc il y a Greenpeace, France Nature Environnement et Global Chance, les trois représentants étaient là. Donc eux, ils intervenaient comme participants et ils soutenaient ce débat tout en donnant leurs critiques, c'est quand même intéressant, hein. Et en même temps, Greenpeace disait, en même temps, nous, on est dedans et dehors. Et ils citaient l'absence de la CIRAD. Ça, c'est aussi intéressant. La CIRAD, qui a bien sûr refusé de participer à cette commission, elle a même à la préparation de la commission, notamment sur les données chiffrées et les quantités qui étaient présentées de déchets, qui sont complètement sous-estimées ou en tout cas rangées dans les cases où on a l'impression que les matières ne seraient pas des déchets. Et là, donc, le représentant de Landra a fait une pirouette en expliquant qu'il venait de changer un petit peu ses slides de la présentation du diaporama et qu'en fait, il était d'accord avec la CIRAD. Ceci dit, les additions n'étaient pas faites et qu'il fallait que chacun puisse, en lisant le slide, faire 1,6 million, plus 500, plus 300, etc., arriver en fait au chiffre que la CIRAD avait annoncé. Donc Landra reconnaît, c'est intéressant, que la CIRAD a raison et que du coup, il y a bien effectivement ce débat sur les matières et les déchets qui permet de ne parler que de déchets 1,6 million et non pas de l'ensemble des matières. Donc il y avait quand même une reconnaissance de l'intérêt de la critique de la CIRAD, qui aussi expliquait que pour préparer un débat, c'est pas en un mois avant la connaissance des chiffres qu'on peut réagir. Il y a eu la masse de détails qui étaient donnés dans les documents qui ont été publiés sur le site, qu'il fallait prendre beaucoup plus de temps si on voulait vraiment un débat. La CIRAD ne refuse pas le débat, mais un débat préparé à l'avance et pas en tête. C'est aussi intéressant.
Une question.
Moi, ça me fait penser quand même aux enquêtes d'utilité publique qu'on a bien connues au niveau de l'implantation des centrales nucléaires en France. On s'est aperçu que c'était vraiment l'esbrouf le plus total, puisque les premières enquêtes d'utilité publique ont eu lieu dans les années 70. Généralement, la population était contre, s'exprimait contre dans les bouquins, et puis dans les trucs qui étaient donnés
Les registres
qui étaient donnés dans les mairies. Et puis en fait, l'administration n'en tenait absolument pas compte. L'État et l'EDF s'asseyaient dessus joyeusement. Et il a fallu la lutte de Plogoff, hein, en Bretagne, pour qu'effectivement il y ait le boycott de ces enquêtes d'utilité publique, qui ont été reprises d'ailleurs par les gens de Chaux. Je crois que ça a été les deux seuls endroits, peut-être Golfech, je ne sais pas, les deux seuls endroits où il y a eu effectivement un boycott très clair de ce type de débat, où les dés sont pipés d'avance. C'est-à-dire que de toute façon, tu peux bien dire les choses les plus intéressantes possibles, n'empêche que de toute façon, les décisions sont prises bien avant et étaient là pour finalement cautionner, les entériner, et puis peut-être soulever des choses que, en tant que nucléocrates, n'ont pas pensé. Parce que bon, il y a aussi un problème. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, il y a déjà un problème de volume. Hein. Ils n'imaginent pas que, ce que c'est. Tous les centrales nucléaires qui existent en France, plus de 50, même plus avec tous ceux qui ne fonctionnent plus, mais qui sont toujours productrices de déchets, ça fait des tonnes et des tonnes et des millions de tonnes de déchets à gérer. Et puis, je crois que il y a un truc moi qui m'étonne le plus, c'est-à-dire qu'on parle de centralisation toujours, centralisation de l'énergie, centralisation des déchets, évidemment. Donc on parle de l'enfouissement dans un lieu où on va mettre, comme il y a eu au départ l'AG, on va mettre tous les déchets là. C'est incroyable ce genre de situation. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut les transporter, les déchets. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des accidents, évidemment. Des accidents de camions, des accidents peut-être au niveau des wagons qui vont chauffer. Enfin bon, donc on en est toujours au même point. C'est-à-dire qu'il y a toujours la même conception de tout ce qui est énergétique en France. La centralisation, il n'y a pas... Alors que de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Si on veut que ça ne se disperse pas trop, les déchets, on en a. Et de toute façon, il va falloir les gérer. Mais il ne faut pas les gérer de manière centrale, hein, c'est évident. Hein, parce que vraiment, ça va être n'importe quoi. Enfin bon, c'était tout. Hein.
Parce que, oui, non, mais là-dessus, je pense que justement, le débat, en tout cas, il n'était pas tranché, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est quand même, il y avait, malgré tout, de la part des opposants au débat et donc au nucléaire, et de la part des participants au débat ou des volontaires du débat, et donc parmi ceux-là, les représentants des différentes autorités ou organismes que j'ai cités, Orano, DF, CEA, Andra, c'est de dire, effectivement, il y a des déchets, il faut trouver une solution. Donc c'est pas aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu entendre peut-être il y a 20 ou 30 ans, on trouvera une solution demain pour les déchets, mais les déchets, c'est pas un problème. Là, le déchet devient vraiment un problème. Il y a eu une intervention aussi d'un autre Lillois, d'un nordiste, qui a dit, comment voulez-vous qu'on puisse vous croire, qui s'est présenté comme ingénieur, hein, en disant, du coup, si je suis ingénieur, j'ai quand même le droit de parler aussi un petit peu à égalité avec certains qui sont en face de moi. Et donc, il a dit, comment voulez-vous qu'on puisse vous croire quand on voit l'échec de Stocamine? Ouais. Et là, c'est un point aussi intéressant à développer. Là, par contre, effectivement, ça a été les mouches ont volé... voilà. Donc c'est oui, on n'a pas.
Tu peux rappeler ce que c'est que ce Stocamine?
Voilà, Stocamine. Donc normalement, Stocamine, donc stockage, dans une situation minière de déchets dangereux de toutes sortes, alors pas radioactifs a priori, en tout cas de toutes sortes, qui était du stockage, le temps de trouver une solution pour traiter les produits et de réduire le risque des produits chimiques contenus. Or, ça devait durer. Peut-être une dizaine d'années, je ne sais plus, en tout cas, ça devrait un temps certain, au bout duquel il devait y avoir un recyclage et un traitement.
Ouais.
Et donc, il y a eu deux choses qui se sont produites. Il y a eu un incendie qui a duré quand même quelques mois, qui a duré quelques mois, dont on a vraiment eu du mal à réduire l'ampleur. Et suite à cet incendie, mais pas seulement à cause de cet incendie, puisqu'on s'est aperçu que les conditions de stockage ne permettait pas, à force de pousser, et de l'effondrement d'une partie des voûtes, puisque c'était bien sûr en site minier enterré.
C'était du sel,
l'effondrement.
Je crois.
Et du coup, on n'arrivait pas à les retirer.
Ouais.
Donc la seule solution, c'est de considérer que c'était pas possible, et donc de réinvestir de l'argent public, vu l'échec quand même du système privé qui devait gérer ce système, on va considérer que c'est un stockage définitif. Et on va essayer, de couler du béton, et de faire ce qu'on peut pour essayer de noyer dans le béton les déchets ultimes. Donc là, c'est un échec purement technologique qui fait qu'aujourd'hui, ça pèse effectivement sur le débat. Et c'est un exemple qui n'a pas à voir avec le nucléaire, mais qui a à voir avec les autres types de débats. Et donc, on remet bien aussi les déchets nucléaires dans l'ensemble des déchets dangereux qui sont à gérer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est justement un axe qui permet de dire, bon, si on ne sait pas faire, on ne peut pas simplement croire qu'on va y arriver, puisque là, on ne sait pas faire. Et cet exemple-là peut influencer fortement les indécis hein, qui ne travaillent pas simplement sur le nucléaire, qui s'interrogent pas seulement sur le nucléaire, mais y compris les gens qui travaillent dans la technologie de traitement des déchets. Parce qu'effectivement, c'est un échec on n'en parle pas beaucoup parce que c'est quand même très limité en termes de volume aussi. Mais en tout cas, comme solution, c'est un échec cuisant.
C'est en Allemagne, je crois, non ?
Socamine, c'était situé où ?
C'est dans l'Est. C'est plus à l'Est que...
En Allemagne ? En Alsace ?
En Alsace.
Oui.
Alors, je voulais terminer là-dessus sur la solution que moi, je vais aussi, l'autre casquette que je vais prendre, que j'ai pris d'ailleurs dans le débat qui a duré au moins un quart d'heure, 20 minutes à la fin de la réunion. Hein. Donc c'était intéressant, c'était pas un débat simplement au revoir, c'est intéressant d'entendre et de j'ai confronté cette position et entendre un petit peu de vive voix la position des différents représentants d'EDF qui étaient là ou de CEA, qui au départ donnaient leur position de base, on peut jamais rien faire, les opposants sont là, vous voyez bien, on peut pas s'exprimer. Et après, j'ai quand même resitué en disant qu'il y avait quand même une situation sur Bure aujourd'hui qui était quand même un petit peu exceptionnelle, extraordinaire hein, en termes de vie courante et de pression policière. La réponse, ça, je vous en doutez, a été oui, mais bon, c'était une zone de non-droit. L'ANDRA avait peur de pouvoir y travailler, donc il a bien fallu protéger les travailleurs de l'ANDRA. C'est la position qui était donnée par la représentante de l'EDF. Voilà, donc ça c'est classique. Ceci dit, je pense qu'elle était sincère dans ce qu'elle disait, elle y croit. C'est un des arguments qu'il faut peut-être avoir dans l'oreille pour dire, bon, voilà un petit peu ce qui peut être présenté. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était de dire, nous, on a vraiment envie de trouver une solution qui soit pérenne, parce que, voilà, on n'est pas forcément là, on ne sait pas, on veut trouver une solution. Comment faire? Et là, j'ai présenté cette solution qui pourrait consister, si vous voulez vraiment avoir un débat, premièrement, tant que vous ferez des débats, puisque ça a été dit et acté par la présidente, tant que vous ferez des débats alors qu'il n'y a pas de décision de sortir du nucléaire, ça ne pourra pas fonctionner. Donc ce n'est pas la peine de faire des débats. Bon. Si vous voulez un débat, okay, qu'est-ce qu'il faudrait comme condition pour pouvoir réunir les conditions du débat? Donc premièrement, une fois qu'on a dit ça, c'est comment faire pour acter cette sortie du nucléaire ou bien au moins un moratoire, le temps de pouvoir engager cette sortie du nucléaire. Le fait de dire on sort du nucléaire, ça peut quand même aussi prendre un certain temps. Par contre, avant de dire on sort du nucléaire, si c'est le but d'y arriver, comment on y arrive, c'est peut-être de faire une solution de statu quo pour engager le débat. Donc, pour faire cette solution de statu quo avec des partenaires qui pourraient influencer, et le cadre y est dans ce grand débat, au-delà, bien sûr, des décisions locales ou des débats locaux qui ont pu avoir lieu, autour de du Bure et dans le Grand Est, y compris jusqu'à Lille, hein, qui ont eu lieu avec Lille Radier qui a fait ces débats-là sur Bure aussi il y a au début de l'année. Comment on peut faire? Donc le système qui existe et que j'ai revendiqué aux différents représentants donc de qui m'ont écouté quand même. Hein, et j'ai pris cette posture et mon grand âge permet de dire qu'en tant qu'expert de justice maintenant, ce qui m'intéresse c'est le contradictoire. Je n'ai pas pris la position du militant anti-nucléaire, c'est la position plutôt de comment on peut faire pour trancher un débat qui est de l'ordre, effectivement, de l'État et donc de l'ensemble des citoyens français, et pas simplement des technocrates ou des anti-nucléaires, c'est bien l'ensemble qu'il faudrait poser. Une solution, c'est la conférence de citoyens. Conférence de citoyens qui est promue par la Convention citoyenne, dont un des deux cofondateurs est Jacques Testard, le papa, le père... on peut dire, en tout cas le père scientifique d'Amandine, le premier bébé éprouvette, qui lui a décidé en tant que scientifique à l'époque d'arrêter ses recherches, puisqu'il disait, c'est pas moi en tant qu'expert ou scientifique que je peux continuer à la manipulation génétique, eh bien, débat citoyen, c'est pas aux politiques, c'est pas aux experts, c'est pas aux scientifiques, c'est aux citoyens de trancher sur jusqu'où on veut aller sur ces questions de manipulation génétique. Donc la Fondation Sans Citoyenne est née de là et propose depuis 2007 une formule et un format de prise de décision, qui s'appelle conférence de citoyens, et qui est en fait sur un tirage au sort d'un petit nombre de personnes tirées sur les listes électorales, au bout avec une formation, donc devant les différents experts protagonistes, hein, les pour, les contre, les moyens, tout ce qu'on veut, après une série de formations qui puissent donner un avis. Mais la particularité, cet avis qui serait donné, il y en a eu un cas qui est connu, c'était sur les OGM, a débouché sur un moratoire. Tout dépend du coup de qui va commander cette conférence. Cette conférence doit être commandée pour qu'elle soit efficace par une autorité qui a un pouvoir décisionnaire de prendre une décision, oui, non ou moratoire. Il se trouve qu'effectivement, le grand débat public ne fait que préparer différentes réunions qui sont programmées dans le plan, le PNG mort de rire, donc MDR, le PNG MDR, qui lui est programmé de façon très institutionnelle, avec débat à l'Assemblée, au Sénat, etc. Et avant le débat final, c'est Assemblée-Débat, il y a effectivement la saisine de l'Observatoire parlementaire, de l'Office parlementaire, pardon, de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et cet outil parlementaire, qui s'est réuni il n'y a pas longtemps sur Notre-Dame de Paris, hein, pour donner un avis à la préparation de la loi d'exception, là, qui est à égalité composé de Parlement et de sénateurs, de députés et de sénateurs, donne un avis. Et cet avis pourrait être effectivement proposé après, bien sûr, à l'Assemblée, au Sénat. Et cet avis serait tout à fait circonstancié et argumenté par, en préparation par une conférence de citoyens. Donc dans ce cadre-là, il pourrait avoir un avis. Et cet avis sur les déchets, ce serait simplement de dire, de toute façon, pour aborder ce sujet, la seule solution, c'est de sortir du nucléaire avant d'aborder les déchets. Et de le faire acter en respectant le processus qui est proposé. Puisque de toute façon, comme il y a une porte ouverte, soit effectivement on peut aller jusqu'au bout, et c'est autre chose que l'enquête publique, hein, où l'enquête publique, effectivement, même si la majorité de la population exprimée est contre avec différents arguments, le comité enquêteur, il donne son avis. De toute façon, c'est qu'un avis, mais il n'y a pas de décision derrière. La décision, elle appartient à l'autorité qui l'a commandée, quel que soit le niveau.
Oui, c'est l'autorité politique. Moi, ça fait penser quand même quelque part à une partie des débats qui ont eu lieu dans les Gilets jaunes. Cette histoire
tout à fait. Hein, bah, alors justement, si je fais là, parce que ce sera votre émission juste après, la position, pour aller voir sur le site de Fondation France Citoyenne, dès lors où il y a eu effectivement le débat sur le RIC qui est apparu, et la position notamment, c'était Attac et puis Fondation France Citoyenne, qu'on dit pas de RIC sans conférence préalable. Donc l'intérêt, effectivement, dans le schéma de respect des prises de décision, c'est une conférence de citoyens qui permet de donner un avis de citoyens. Alors, comme parallèle, on pourrait dire, c'est des citoyens beaucoup mieux formés, mais qui siègent aux assises. Bon. Donc, ils sont tirés sur des listes, et effectivement, ils rendent un avis au niveau des cours. Donc, c'est le schéma. Par contre, il faut qu'ils soient bien formés. La difficulté, elle tient bien à ça, qu'ils soient bien formés. Pas simplement informé. Par contre, il donne un avis. Et cet avis doit être présenté à l'Assemblée. Si effectivement l'Assemblée va contre l'avis des citoyens, à ce moment-là, il y a un RIC. C'est-à-dire que le RIC n'intervient qu'en dernier ressort, s'il y a un désaccord entre la position de la conférence de citoyens,
les citoyens
et
puis
l'autorité. L'autorité. Donc apparemment, là, ça peut être. Il y a des régions qui le font, hein, des grandes régions. Des régions, effectivement, vont commander un débat sur la fin de vie, sur je ne sais pas quoi, etc. Ils disent, bon, écoutez, nous, on prendra la décision en fonction de l'avis. Par contre, effectivement, s'il y a une divergence entre l'avis des citoyens et l'avis de l'autorité, à ce moment-là, il y aura un référendum. Donc, okay. Voilà comment c'est
moi, j'ai regardé un petit peu ce que c'était que cette commission nationale du débat public pour cette histoire des déchets nucléaires. Ça a quand même coûté... Il y aura 22 rencontres débats partout en France.
Ouais.
Ça s'arrête le 25 septembre. Ça a commencé le 17 avril à Paris, à la Mutualité.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Je crois que Lille, tu l'as dit au départ, c'était le troisième. Ça a quand même coûté...
Alors c'était la troisième, mais c'était la première. Il y a différents types de réunions. Il y a des réunions qui sont la deuxième, c'était à Caen, c'est un café philo. Donc il a dit, c'est très bien passé apparemment, on n'a pas de trace, donc c'est pas qui s'est dit, mais c'est un café philo. Par contre, Lille, c'était la première de réunion généraliste.
Généraliste, d'accord.
D'accord, voilà. Il y en a trois autres, hein, des réunions généralistes, après des réunions plus spécifiques.
ça a quand même coûté 1,5 million d'euros, hein,
oui,
pour simplement organiser ces 22 rencontres,
oui,
qui vont durer jusqu'au 25 septembre. Bon, bien sûr, oui, il y aura un arrêt en juillet-août. Voilà.
Oui.
Donc, moi,
alors,
ça,
pour
fait,
eux,
ça fait...
Pour, eux, ça pour peut... votre région, effectivement, à Bar-le-Duc, c'est le 20 juin.
C'est le 20 juin, d'accord.
20 juin à Bar-le-Duc, c'est une rencontre, c'est pas une réunion plénière, c'est une rencontre spécifique sur la gestion des déchets radioactifs ultimes. Quelles alternatives au stockage géologique? Et j'insiste là-dessus, puisque à la demande de la présidente de la commission, il y a eu effectivement deux rapports supplémentaires qui ont été commandés qui n'existaient pas, c'est justement sur les alternatives. Alors bien sûr, on peut dire, voilà, c'est toujours les mêmes qui font les rapports. Ceci dit, les rapports n'existaient pas, et ils ont été versés sur le site le 15 mai dernier. Donc en fait, on n'a même pas le temps d'en prendre connaissance, puisqu'on était dans une question généraliste. Mais ce débat qui va avoir lieu à Bar-le-Duc le 20 juin va porter sur cette question, avec des rapports supplémentaires qui ont été. On sent quand même si ça pourrait paraître comme étant un artifice, on sent quand même de façon fébrile l'ouverture sur, bah, en fait, y a-t-il des solutions alternatives au stockage ultime tel qu'on l'envisage aujourd'hui. C'est quand même, je tiens quand même à dire, il y a quand même ça qu'on sent effectivement cette question qui est posée. C'est pas afin de me recevoir. C'est, il existe peut-être des solutions, notamment le temps d'attendre, je ne vois pas s'il y avait un moratoire, le temps d'attendre des discussions peut-être un petit peu plus et des recherches un petit peu plus fouillées et ouvrant d'autres pistes que l'enfouissement profond à Bure. Il y a quand même quelque chose, j'ai senti un frémissement dans la mesure où moi je me suis présenté et j'ai assumé le fait de discuter de gré à gré avec des représentants d'EDF pour essayer de les pousser, et puis de CA et de Renault, pour les pousser voir un peu jusqu'où ils pouvaient aller dans cette réflexion. Est-ce que leur décision a été prise ou est-ce qu'ils envisageaient effectivement des investissements sur des solutions alternatives? Puisque les déchets sont là, on va effectivement pouvoir trouver des solutions alternatives.
Ben, je crois que ça traduit le fait qu'ils sont vraiment dans la merde, nos nucléocrates. Je crois que c'est ça.
Dans la merde, et deux, il faut replacer ça dans l'enjeu aujourd'hui de refinancement d'EDF.
Ouais.
Oui.
Avec le fait de pouvoir privatiser les parties les plus à venir alternatives qui pourraient effectivement, tout ce qu'on appelle l'énergie verte, qui pourraient effectivement être très lucratives, créatrices d'emplois, etc. Et par contre, tout ce qui coûte cher, ce serait complètement renationalisé. Il y a une partie, effectivement, qui est... Et donc là, on se retrouve avec le débat qui est prévu aujourd'hui, enfin, qui est sous-entendu. C'est s'il y a cette décision de séparer tout ce qui est ancien, y compris peut-être tout ce qui est les dernières centrales thermiques, et puis en tout cas tout ce qui est le nucléaire, pourrait être de nouveau à 100% nationalisé. Et par contre, en même temps, bah, tout ce qui pourrait être les énergies vertes, renouvelables et créatrices, effectivement, aussi d'emploi, et puis
ça serait effectivement privatisé.
Non, mais
c'est vraiment, on est dans le système capitaliste, on comprend bien.
Ça, hein. Ah oui,
on comprend bien. C'est sûr que quand ça coûte du fric, c'est l'État qui nationalise, enfin, et puis c'est nous qui payons, les contribuables payent. Et puis quand ça va rapporter du fric, eh ben, effectivement, ça va être la privatisation. Il n'y a rien de changé, quoi. C'est-à-dire que...
Oui, moi j'avais des questions. Tu vois, à Bar-le-Duc, le 20 juin, tu dis il y a un prochain débat concernant quelle alternative au stockage géologique. D'après les informations que j'ai, ce débat ne sera pas suivi par les gens qui luttent contre le projet de Bure. Il sera suivi par des gens qui sont peut-être Greenpeace et tout ça, parce que finalement, Greenpeace, moi... Je l'ai déjà dit à cette antenne, j'ai beaucoup de doutes sur leur motivation antinucléaire. Il faut quand même signaler au passage que Greenpeace a envoyé un certain nombre de personnes au gouvernement à l'époque socialiste. Hein, c'était Bruno Rebell. Et qu'ensuite, par exemple, ils ont pris une position qui a quand même été historique parce que ils ont accepté le prolongement de vie des centrales nucléaires, ce qui est quand même pas rien. Hein, ils ont accepté le prolongement de vie des centrales nucléaires, c'est paru dans la Gazette du Nucléaire de Belbeoc. Donc ça, c'est du solide, quoi. Et ces gens-là sont toujours dans les commissions. Effectivement, ils sont dehors, ils sont dedans. Voilà, ils frayent, ils naviguent, ils ont les qualités d'experts, et puis quoi encore, quoi. Donc, moi, je dis des gros doutes par rapport à la participation des habitants de Bure en lutte. Attends. Et ensuite, ce que je voulais savoir, c'est la commission nationale. Qui est-ce qui est représenté au niveau de l'État français dans cette commission? C'est des gens qui sont nommés? Tu avais parlé de gens du groupe de Testar, ça c'est différent.
Alors, pas du tout. Non, mais ils sont pas. Non. Dans cette commission, effectivement, j'ai pas la liste là sous les yeux, mais on a des personnes entre guillemets réputées pour leur expertise dans en termes de débat public, qui ne sont pas forcément à voir avec le sujet lui-même, hein, donc qui sont des experts du débat public, mais qui sont pas sachants dans le sujet lui-même. Il y en a. Et après, on a surtout quelques associations qui sont associées à la préparation des débats publics. J'ai pas la liste là sous les yeux, mais en tout cas, c'est une instance qui va travailler en commission restreinte sur. À chaque fois qu'il y a un sujet, c'est une commission spécifique. Hein, donc on a là, par exemple, la présidente, c'est une magistrate. Hein, c'est pas du tout quelqu'un qui a à voir avec le sujet particulier. Bon, par contre, évidemment, d'accord. On sent bien. Il y a une petite réflexion qui a été faite d'ailleurs par un des membres de l'île Radier qui a dit qu'il voulait prendre la parole, etc., et qui s'était fait un petit peu rembarrer par la présidente. Et donc je pense qu'il a tutoyé la présidente à un moment donné, mais il l'a fait exprès. Il dit mais on tutoie pas les gens. Et là il a fait remarquer effectivement quelque chose qui s'est passé un petit peu inaperçu, mais moi je l'ai entendu. Et en tout cas on verra si c'est vrai. Elle avait elle-même tutoyé le représentant d'Orano. Donc,
c'est le même milieu.
Voilà, on sentait cette proximité quand même de respect, de milieu, et qui est apparue, alors de façon à mon avis anecdotique, parce qu'elle varie une fois, mais c'est pas vraiment officiel, c'est comme si j'avais passé le micro. Et donc, du coup, c'est apparu quand même, si on a entendu, mais du coup, ce militant a fait remarquer que, justement, il y a peut-être un souci aussi de proximité. Ceci dit, moi, je pense que, bien entendu, il va y avoir des conséquences. On attend de voir comment ça peut se passer, puisque à Lille, le 28 mai, c'est une chose. Mardi 4 juin, c'est demain. La prochaine, c'est à Valence. Donc, il craignait beaucoup que ça fasse un petit peu, tache d'huile et boule de neige, quoi. Donc, que la façon dont on a effectivement assisté à l'échec du débat influence effectivement les rencontres ultérieures. En tout cas, ce que je tiens à dire dans la dernière partie où on a pu apprendre effectivement que cette question de la position dans l'Assemblée du débat des différentes personnes, qu'on ait des pour et des contre citoyens qui débattent, pourquoi pas. En tout cas, la décision de mettre et d'intégrer les experts qui ne sont pas citoyens, les experts que ce soit les associations qui étaient là aussi d'ailleurs, ou que ce soit les représentants d'Orano, DF, Andra et compagnie, au même rang que le citoyen, c'est une décision qui n'est pas fortuite. Elle a été assumée et la présidente n'en était pas d'accord. La présidente aurait voulu faire une tribune avec les experts qui pouvaient répondre aux questions et les citoyens qui soient effectivement déclarés comme n'étant pas, a priori, déjà attachés à la commission. Donc de mettre d'un côté, pourquoi pas, les opposants à l'enfouissement tel que l'ont dit quand même clairement Greenpeace, Sans Nature Environnement, enfin, ils n'ont pas le temps de le dire, mais ils sont sur cette position-là, et Global Chance, et pourquoi pas la CIRAD, s'il y avait quelqu'un à la CIRAD. En tout cas, les opposants à l'enfouissement tel que la décision est en ce moment en train d'être prise, et de l'autre côté, les partisans et les experts des différentes autorités des organismes. Donc, savent que cette bipolarité-là, apparemment, et là, je terminerai là-dessus, c'est très intéressant, je l'avais entendu, mais je l'ai découvert, cette commission, pour la première fois du débat public, a pu bénéficier d'un groupe un petit peu bizarre qui s'appelle le groupe Miroir. Le groupe Miroir, c'est justement là où on a eu 14 personnes tirées au hasard sur les listes, on ne sait pas quelles listes, en tout cas des listes, qui ont été formées dans la période un petit peu de latence entre le mois d'avril et le mois de mai. Donc il y a eu des formations de 15, il y a 14, 7 hommes, 7 femmes, soi-disant dans les représentants de couches, alors il y a un demandeur d'emploi, un architecte, etc. et qui sont ce qu'on appelle du coup le groupe miroir. C'est des citoyens à qui on propose des solutions, des débats, on étudie leurs réactions avant de prendre une décision d'organisation. Donc ce groupe miroir, apparemment, d'après ce que j'ai compris, aurait souhaité plutôt mettre tout le monde à la même table. Et donc, la présidente était contre, et du coup, ça, c'est une des raisons aussi, peut-être, j'étais étonné hein, de la façon dont ils ont pu ne pas envisager que le débat pouvait être saboté. Parce que,
d'accord.
Naturellement, ils étaient étonnés. Hein.
Bah, écoute, on va se quitter là.
On va être obligé d'abréger là, parce qu'il faut absolument qu'on parle du procès de ce matin. Oui. Écoute, Luc, on te remercie beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Je pense que t'aurais sûrement encore beaucoup de choses à nous expliquer, à nous raconter. Encore merci et à très bientôt.
Oui, à très bientôt.
Au revoir.
Allez, salut, au revoir.
Le marchand de sable est devenu un dealer de poussière, un briseur de rêves, esclave des élites financières, un trafiquant d'armes, un fournisseur de drames, de larmes, un simple fabricant de missiles nucléaires. Ils veulent ensevelir nos idées, atomiser nos espoirs. Et oui, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre, un contre-pouvoir face à ces dictateurs qui veulent faire de notre joli monde un enfer.
Caché derrière vos ordres, horrible mission de bleu vêtu à bure, missionnaire de destruction, sort du rang, casseur des champs, ce chant pour nos enfants que je t'envoie en pleine face à face, avec ton cœur de glace, prends ta baffe et de grâce, casse-toi de là, dans la forêt tape à ta place, les hiboux, debout, la lispo, à genoux.
La violence ou le chaos, c'est un raccourci où elle est copaine, faut parler vrai, ça fait un temps que certaines sont enivrées, glace nos paroles, les rossignols. Une colère vive en réponse aux mensonges. Les briseurs de rêves sont sans songe. Et ensemble des deux côtés du miroir, je sais pas si tu peux voir, mais le miroir de nos souffrances, ils l'ont tué, veulent enterrer. Mais notre parole, c'est comme notre âme, c'est comme la rime. Et souvent, je me repose sur des rives d'espoir.
Viens pas me casser le champ des possibles. J'ai le flow magnétique, cracheur de flux. Communiquer à la bonne distance des gens. Comment faire ensemble sans faire semblant? Voici ma désolation, demeure sensible. Le combat est partout où le désert s'approfondit instable. Nos champs de cailloux restent intraçables.
Terre aride, c'est tout ce qui pouvait arriver. Nos corps sont brûlés à l'acide, mais qu'avait-il tant espéré? Une défaillance ancestrale, total oubli du rythme astral. Nouvelle folie occidentale, un résultat défectoral. Un esprit sain dans un corps sain. Non mais regarde autour de toi, juste des angoisses tous les matins et des douleurs dans l'estomac. On détruit tout ce qui nous fait vivre. Qu'attendons-nous depuis tout ce temps pour repasser à l'offensive? La haine a envahi nos champs.
Check ma commissure, commissaire, sur ton fumier de manche misère, commis d'office et militaire, voilà la constellation de notre colère, ton travail mérite sa pierre, dans les ciels et sur leur tête, par mon parvo, ni Dieu ni maître, mort aux vaches et poudre de champêtre, par mon parvo, ni Dieu ni maître, mort aux vaches et poudre de champêtre.
Ras des villes, ras des champs, sans dépile en équipement, sans aucune rue adjacente, ce soir on tapera pas la banque, on ira où on voudra quand on voudra, et on s'aimera encore même quand l'Andra sera mort. Dans les yeux des milliers rougis par la lacrymo, la même détermination que celle de la bande à Bono. Ça fait zaï 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 zaï, flashball sur la colline, et ça caille 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 dès qu'on sort du sleeping. Quoi qu'il vaille 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 vaille, la sain avait la classe, casseur des champs, chanteur des casses.
Allume le feu de la rage contre leur haine glaciaire, dans la brume épaisse les hiboux sortent avec...
Bon, maintenant vous parlez de ce qui s'est passé ce matin, entre autres à Reims, au niveau du tribunal où il y avait 5 gilets jaunes qui passaient devant apparemment un tribunal civil, quoi. C'était la procédure civile. C'est un correctionnel. D'accord. Alors raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé, puisque tu fais partie de ces 5.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on était 5 personnes à être convoquées. Et pour les 5 personnes, on a été condamné à 180 euros. Et moi, ce qui m'a fortement surpris, c'est déjà qu'on parle de rabais comme si on était dans une grande surface. C'est-à-dire qu'on nous a dit, si vous payez aujourd'hui, vous avez 20% de moins. Je ne savais pas que le tribunal correctionnel de Reims faisait partie de ces discounts et compagnie.
Mais alors, c'était une audience un peu particulière, puisqu'il n'y avait qu'un procureur, un juge et vous 5.
Ouais. Ouais, tout
donc,
à fait.
Il y avait d'autres personnes.
Et il y avait des avocats.
Il y avait des avocats et tout, mais pour d'autres personnes. Nous, on n'avait pas d'avocat. Effectivement, j'étais surpris qu'il n'y avait que deux personnes. En fait, il y avait le substitut du procureur.
Ouais. Et qui n'était pas habillé d'ailleurs.
Qui était en civil.
Qui était en chemise.
Nous, sur la convocation, c'était marqué convocation auprès du référent du procureur. C'était pas marqué salle d'audience correctionnelle. Et d'ailleurs, quand je me suis présenté à l'accueil, j'étais en compagnie des autres collègues. Les autres avaient été envoyés du côté gauche, donc vers la salle correctionnelle, et moi, on m'envoyait à droite. Donc, étant surpris, j'ai posé la question. Et là, la dame à l'accueil a eu un doute et elle m'a dit bah, « suivez vos collègues ». Et effectivement, on était convoqués au même endroit. Mais je vous dis, moi, ce qui me surprend, c'est l'effet de dire « voilà, vous êtes convoqués pour ça, mais si vous payez aujourd'hui, on vous fait 20%. »
Non, mais tu ne veux pas dire que c'est la justice au rabais, je pense. Justice TGV.
C'est un peu ça. C'est un peu
je pense,
ça,
hein. Je pense que déjà, il n'a même pas eu le temps d'avoir son jugement, que c'était déjà, en première tête.
C'est comme une amende.
Les gens, ils n'étaient même pas encore sûrs de ce qu'il allait avoir. Et c'était déjà en tête de dire « bah voilà, c'est... » une amende, et puis bah voilà quoi, c'est...
Donc il n'y a pas eu de plaidoirie?
Non, absolument pas.
Et vous, vous êtes exprimé? Vous avez pu vous exprimer?
Ah, pas du tout, on m'a dit que j'avais 45 jours pour dire si j'étais d'accord ou pas, ou que je pouvais payer aujourd'hui, et que dans ce cas-là, on me faisait 20%. J'ai pris les 20%.
D'accord. Il a pris les 20%.
Et donc, on va revenir un peu au... Est-ce que tu veux bien qu'on revienne un peu aux faits, en ce qui concerne, en ce qui te concerne, puisque les faits qui étaient reprochés étaient quand même assez graves, bien qu'ils n'avaient aucune preuve. Déjà, le contexte, c'est la destruction de la cabane du rond-point de Cormontreuil. En fait, ils ont utilisé un stratagème pour vous éloigner.
Voilà, tout à fait. Le jour où ils ont décidé de démonter la cabane à Cormontreuil, on a tous eu le droit à une convocation. On était priés de se présenter au commissariat central pour une affaire nous concernant, sans plus de détails. Convocation à 15h où on s'est rendu. Arrivé là-bas, j'ai reçu un texto par un gilet jaune qui était resté sur le terrain, qui m'informait qu'il y avait la grue qui était là, prêt à démolir la cabane. Donc moi, je suis sorti du commissariat, je n'ai pas attendu. Je suis retourné à Cormontreuil, on s'est retrouvés à une bonne dizaine. Le soir, on était, une bonne quinzaine même. Et là, ça a commencé à tourner en pugilat. Dès que les forces de l'ordre sont arrivées, alors je tiens à dire que les premières forces de l'ordre qui sont arrivées en uniforme, donc les policiers lambda, on va dire, étaient pas si virulents que ça. Ils nous disaient qu'ils allaient nous évacuer, mais sans provocation ni rien. Ensuite, il y a la BAC qui est arrivée, et là on a vu ce que ça donnait. Ouais. Il y a eu déjà un collègue qui a été poussé violemment à terre. Et ils ont mis la grue en route. Et c'est là que j'ai pris le drapeau. Et c'est là qu'on m'accuse d'avoir brûlé le drapeau.
D'accord. Mais
seulement le problème qu'ils ont, je pense, c'est que tout a été filmé. Et la vidéo est toujours visible sur YouTube. On voit très bien le fonctionnaire de la BAC poussé un des collègues, mais en aucun cas le drapeau qui brûle.
Oui, donc en fait, ils n'ont absolument aucune preuve d'avancer ce qu'ils déclaraient. C'était, ils ont fait du bluff et de la menace.
Ouais.
Et sauf que ces menaces, pour toi, pour ce qui te concerne, ça se monte. Les amendes sont extrêmement élevées.
C'est ça, oui.
Puisque 180, c'est aujourd'hui, mais auparavant, il y en a déjà eu d'autres.
Il y en a eu d'autres. Hein. En tout et pour tout, si je compte tout ce que j'ai payé en frais de justice, en PV, en tout ce que tu veux, j'en ai pour 2135 €.
D'accord.
Alors, je ne suis pas le seul, hein. On est des centaines sur Reims à avoir été condamnés. Je pense qu'ils ont, ils ont ils ramassé. Ouais.
Donc on peut dire que c'est un mouvement qui rapporte à l'État, en fait.
Oh, bah,
hein.
Oui, tout à fait.
Ouais, ouais, bien sûr, bien
parce
sûr.
Que sans, bien le, sûr. Sans le rapport de, d'argent, je pense que ça ne va pas bien loin.
Ouais, voilà. Et puis, moi, j'ai un doute sur la volonté d'arrêter les gilets jaunes. J'entends par là, il m'est arrivé, moi, d'être sur le rond-point, d'avoir une discussion avec des policiers qui disaient « lâchez rien, hein, les gars, hein, continuez, hein, continuez le mouvement hein. ». Et puis deux heures après, bah, t'étais interpellé par les mêmes, quoi.
Ouais.
Et tu voyais bien qu'il n'y avait pas de remords. Il n'y avait pas de remords. Ils buvaient le café avec toi et deux heures après, ils t'arrêtaient.
Ouais. Mais il faut dire que ce mouvement a fait augmenter le taux de prime de manière... vertigineuse pour les différents CRS, corps niveau, de police.
Ouais, ça, c'est
donc, si le mouvement tout s'arrête du jour au lendemain, ils vont pleurer, les faux.
Ah, ben, bah, ça, c'est clair. Ah, c'est... En espérant que ça ne s'arrêtera pas, mais malheureusement, l'avenir nous le dira.
Ouais. Bah, ça fait déjà plus de 6 mois. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, comme on échangeait tout à l'heure là-dessus, c'est quand même un mouvement atypique, en ce sens qu'il n'y a pas de représentation. Qui puissent décider d'arrêter le mouvement, comme c'était le cas dans des tas de mouvements sociaux où il y avait les autorités syndicales qui disaient « bon, ben maintenant, c'est fini, il faut savoir arrêter une grève, terminé ». Là, il n'y a pas ça.
Non,
y a pas, ça.
Non,
donc,
pas du tout.
Donc, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. C'est ça qui est important.
Ouais,
donc,
disons qu'on est interdit à peu près de tout. Quoi. Donc, quelque part, ils nous interdisent un peu partout.
Ah, bah oui.
Et même si on est pacifique, on arrive à se faire bousculer. Donc, est-ce qu'on doit rester pacifique ou pas, quoi. C'est ça le problème.
Ouais.
Alors, d'aujourd'hui, c'est ça. C'est soit des amendes ou soit se faire bousculer. Quoi.
Oui, donc à Tilloy, en tout cas, ça continue.
On continue.
Il y a toujours des rassemblements très réguliers. Ouais. Justement, le collectif cherche un peu du matériel pour avoir un abri... conséquent du soleil et de la pluie. Donc voilà, l'appel est lancé, hein, s'il y a des gens qui nous entendent.
Et puis Amir et moi, bah, si vous passez par là, si vous n'avez pas le temps, vous klaxonnez. Et puis si vous avez du temps, bah, vous vous arrêtez, puis vous allez discuter le brin.
Et puis on vous dit merci.
Voilà, merci.
Merci à vous.
Merci à tous.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était le Rigor chaque semaine sur l'École du Garrigue Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive à Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.